Maurice Renard, Évasion. Au moins, vous ne vous ennuyez pas, dit le médecin. Oh, il s'en faut. La vieille et charmante madame de Brège avait répliqué assez vivement, avec un doux sourire, quelque peu mystérieux. Une indisposition la tenait au lit depuis quelques jours. On lui voyait presque élégante, arrangée fort proprement par les soins de sa femme de chambre. « Pardonnez-moi, continua-t-il, c'est que je vous trouve, chère madame, si souvent songeuse, je craignais... »« Oh, ne craignez rien. D'abord, je ne songe pas constamment. » Sachez que je lis parfois et que il m'arrive qu'on me fasse la lecture. Et puis je ne m'ennuie jamais avec mes souvenirs. Je vous dirais même qu'il en est un si merveilleux. Elle n'achevait pas et demeurait soudain secrète. Et ses yeux bleus pâles fixé sur une vision. « Dois-je insister ?» fit-il faiblement. « Imaginez, dit madame de Brège, que vous ayez vécu dans votre enfance une aventure féerique. N'y a-t-il pas là de quoi enchanter tous vos rêves pour tout le reste de votre existence ?»« Oui, sans doute. » observa évasivement le médecin. Oui, oui, vous dites cela avec indulgence. Une aventure féerique, n'est-ce pas? C'est pas possible. Et vous croyez que je bats la campagne? Mais écoutez-moi. J'avais 12 ans et j'étais fille unique. Mes parents habitaient une belle propriété à Saint-Germain-en-Laye. Une institutrice et un professeur de ville venaient à la maison pour me donner des leçons particulières. Je n'étais pas une mauvaise élève, douée d'une sensibilité extrême et d'une très vive imagination. Certaines littératures et certains événements historiques me frappaient particulièrement et singulièrement. J'adorais les contes fantastiques, les grandes infortunes du passé, faisaient couler mes larmes. Et quand vint pour moi le temps d'étudier la Révolution, le malheur de Marie-Antoinette me jeta dans un trouble extraordinaire, douloureux, puisque intolérable. Marie-Antoinette, rien ne peut rendre l'amour passionné et dévoué, presque fanatique. Et l'indignation que m'inspirait la vie, le sort de la reine emprisonnée, le tour dans la tour du temple avec ses enfants. Je ne cessais d'y penser, sans trop dire pourtant, sans trop le dire parce que j'avais conscience de l'excès de mes sentiments et je me gardais d'attirer sur eux l'attention de mon père et de ma mère. Je m'y complaisais bien trop. Il me semblait confusément qu'une telle dévotion était plus forte que le temps, faisait fi des années, et que, après un siècle bientôt, c'est avec ferveur, simplement... J'ai pour aider la reine à supporter le martyre. et sans que personne ne pût le soupçonner, je faisais arriver à vivre constamment par la pensée avec la prisonnière. Mon âme de petite fille exaltée se fondait étrangement avec l'âme de celle que je vénérais plus que tout au monde. J'étais obsédé moi-même par la hantise qu'avait dû harceler toutes les heures de son captivité, s'échapper, fuir par n'importe quel moyen avec la petite madame royale et le petit dauphin devenu Louis XVII. Je roulais dans ma tête les projets fous, les songes lancinants et irréalisables que la pauvre mère avait certainement ruminés, fiévreuse, pendant cette atroce insomnie. Et ces projets, ces songes, je leur prêtais, bien entendu, la bizarrerie de ma propre fantaisie. Or, écoutez, mon cher docteur, un jour à déjeuner, mon père nous annonça qu'une propriété toute proche de la nôtre venait d'être louée, après être restée très longtemps inhabitée. Il ajouta que notre nouvelle voisine, une dame Lebrun, veuve, possédait deux enfants, une fillette de mon âge et un garçon beaucoup plus jeune. Cette nouvelle ne me causa sur le champ aucune émotion. Je n'avais pas fait le rapprochement. Mais à quelques jours de là, on était, je crois, en automne, comme je me promenais, j'aperçus devant moi et de dos, dans une allée de feuilles mortes, une dame en deuil qui marchait lentement, les mains posées sur les épaules de ses deux enfants. Alors, je pris conscience d'un prodige aussi délicieux qu'effrayant. Je compris que la reine, parmi ses vœux insensés, avait fait celui de s'évader dans le temps, de crever le cœur de la cour de la planète, pour ainsi dire, d'être portée hors du temps chez elle, elle pour ses petits, pour aller vivre obscure et caché n'importe où dans un avenir quelconque, et qu'elle avait réalisé. Quel enchantement! Mais quelle imagination, fit le docteur. Comment, vous avez vraiment cru que la reine... Eh oui, certes, oui, ou plutôt, j'ai voulu le croire. Charme intense de cette illusion, et quand ma raison me remontrait l'absurdité de ma chimère puérile, quand le bon sens me disait « Mais voyons, l'histoire est là, l'histoire qui nous enseigne que ni la reine, ni la future duchesse d'Angoulême, ni Louis XVII n'ont disparu comme cela, tous ensemble. » Alors je secouais la tête et je m'enfonçais obstinément dans mon mirage. Je me suis toujours refusé à faire la connaissance de Madame Lebrun et de sa fille, qui, pourtant étant donné son âge, était toute désignée pour devenir ma compagne. Prudente, j'aimais mieux me tenir loin d'elle. Et pourquoi risquer de dissiper cette merveilleuse croyance? C'était si beau. Et lorsque mon père fut contraint de vendre notre joli domaine, oh oui, il y a bien longtemps, Madame Lebrun, toujours en grand deuil, continuait de mener dans la solitude une vie très retirée, et je n'ai jamais cherché à la revoir. Je n'ai jamais revu. Non, ne dramatisons pas davantage. Je ne l'ai jamais revue ni à Versailles, ni dans les bosquets de Trianon, ni dans le jardin des Tuileries, ni aux environs de la chapelle expiatoire, tout lieu où, pourtant, je me suis souvent jamais privé d'aller rêver. Mais très souvent, dès que j'ai eu le loisir, avec quelle volupté je reviens en arrière pour retrouver des instants mirifiques où je guettais silencieuse à travers les branches le passage mélancolique de cette femme en noir et de ses deux enfants. Le médecin s'apprêtait à dire d'un ton quelque peu goguenard. Et alors, qui donc alors a été guillotiné le 6 octobre 1793? Et qui eût épousé le duc d'Angoulême? Madame de Bruyges lui parut toujours si merveilleusement jouir de ses souvenirs qu'il trouva plus important de se taire.